la tête dans le caniveau. Seules les poches sont à sec, la banque qui se défausse. On a le cul qui chauffe, des trous dans le jean d'ozone. Sans la terre c'est la zone, mais rien ne nous arrête. Ça bouffe, ça rote, ça pète, ça les légifère. Mais tout le monde laisse se faire, ça bouffe, sans paf, sans pif. Ça tue pour faire du pif, mais on n'est que des miettes qui hurlent sur la planète. C'est la terre, des mouches sur un bœuf, et le bœuf nous tolère. Quand il sera saoulé et est plat comme un œuf, il ira nous noyer dans la rivière. Quand il sera saoulé de nos vulgaires, il ira nous noyer dans l'univers. C'est lui le proprio, c'est nous les locataires, et vu l'état de l'appart, y a des soucis à se faire.
Salut à tous, c'est Zoom Écologie, le dernier jeudi du mois, donc c'est la bande à Bébert, vous le savez maintenant. Donc on est très nombreux dans le studio ce soir. On a beaucoup d'invités, notamment pour parler de contestation dans les mollets, c'est-à-dire de vélo, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, et tout de suite, nous allons commencer avec un petit apéro presse, comme d'hab, pour parler de tout ce qui va mal dans le monde côté environnement.
Non, je ou, bien. Ne sais
pas. Ou bien, oui.
Ou bien. Ou des bonnes initiatives. Oui, voilà. On a un squatter aussi, au fond, qu'on n'entend pas parce qu'il n'a pas de micro et qu'il fume à la fenêtre.
Ouais.
Mais voilà. Ah, si on l'entend un peu quand même.
On l'a entendu là.
C'est Simon qui est là, voilà. Donc, un petit apéro presse pour entamer cette petite émission Zoom Écolo. Ah oui, j'ai oublié de dire que la chanson que vous venez d'entendre, donc, c'est Java qui nous chantait Bling Bling. Tout va disparaître. Voilà, c'est très gay, hein, n'est-ce pas, pour
ça
commencer. Bravo. Bon, mais on aime la vie, donc il n'y a pas de souci. On va y aller. On va parler de paire d'odus avec Élise.
Bah, bonjour à tous. Donc moi, j'ai eu un article sur le site Bastamag qui a suscité qui a éveillé mes sens. Donc il s'appelle Les forçats de la volaille. Donc c'est un article qui parle de l'industrie agroalimentaire à travers l'exemple de paire d'odus. Donc en fait, paire d'odus, c'est une entreprise. Qui fait de la volaille. Donc là, notamment, cet article s'intéresse à l'usine Paire d'Odus à Quimper, dans le Finistère, qui est un des sites de transformation Chaque jour, il y a des milliers d'escalopes, de saucisses de volaille ou de plats cuisinés qui sortent des chaînes de production de cette usine. Et donc, cet article nous raconte les conditions de travail des salariés, les conséquences que ce travail a sur leur santé au niveau physique, mais aussi au niveau mental, et comment, suite à ce travail, lorsqu'ils sont déclarés inaptes, ils sont rapidement renvoyés. Donc, il y a aussi un petit volet intéressant au niveau environnemental. Donc, on voit qu'en 1998, le groupe a racheté le volailler brésilien Frangosul, et que depuis, 13 usines en France ont fermé. Et notamment en 2008, 650 salariés ont été licenciés. Donc, ce géant de la volaille, bas de gamme, comme il est nommé dans cet article, élève en 37 jours sous les néons les volailles. Et ce qu'on remarque, c'est que qu'il élève ses poulets au Brésil, le coût de production lui revient à 0,74 centimes contre 1,45 € en France. Donc voilà, donc ça déstabilise la filière, ça fait augmenter les prix. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette entreprise est une des premières bénéficiaires des aides de la politique agricole commune, avec 62,8 millions d'euros en 2008, au titre de soutien à l'exportation. Voilà, donc, puis il y a aussi au niveau de l'impact environnemental, le fait de ramener les poulets du Brésil. Voilà, ça c'est à souligner. Voilà, donc je vous conseille, là j'ai survolé rapidement l'article, mais de vous arrêter sur cet article sur le site Bastamag, donc qui s'intitule Les forçats de la volaille.
Ok, merci Élise pour cette petite introduction Cordon Bleu et compagnie. Donc nous allons poursuivre dans les joyeusetés avec un petit article que va nous commenter Rebecca.
Oui, c'est aussi un petit peu dans le même esprit alimentaire, sauf que là, on parle de... Bon, vous savez qu'au Japon, ils sont plutôt très branchés poissons de tous les genres, notamment le thon, mais aussi le dauphin est aussi chassé là-bas. Il est notamment mangé dans des cantines, dans des collectivités, il est très répandu. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle The Cove, un film américain, qui a été tourné avec des caméras cachées à Taiji et qui expose les conditions épouvantables dans lesquelles les dauphins sont chassés et qui sont notamment pêchés un jour et sont battus avant le lendemain. Et ce film devait sortir cette semaine à Tokyo dans 3 salles, mais suite à des pressions des groupuscules d'extrême droite, il a été interdit. Car les groupes disaient que ce film est un affront à l'honneur du Japon, notamment au niveau culinaire. Et c'est assez grave. Et puis il y a donc beaucoup d'opposition à cette pression contre la diffusion d'informations qui sont quand même importantes pour la population japonaise, même si ce film a été beaucoup diffusé de part dans le monde et qui a été très bien reçu. Dans ce contexte, l'Australie vient de porter plainte aussi devant le Cour international de justice. Je vous dis, entre parenthèses, que cet article a été prélevé dans Libération ce matin. Et c'est très approfondi sur tout ce qui tourne autour de la pêche en ce qui concerne le Japon. C'est assez grave parce que, par exemple, une enquête du Sunday Times, c'est un journal anglais, qui relève que le Tokyo apparemment utilise son aide au développement avec des enveloppes de cash et des call girls pour acheter des voix de certains pays durant une réunion cette semaine au Maroc de la commission balnéaire, donc aussi des baleines
totalement indépendantes,
des dauphins, qui a apparemment donc acheté les votes de certains pays, notamment Côte d'Ivoire, Tanzanie, Guinée, Grenade, entre autres, pour voter en leur faveur en ce qui concerne la pêche aux baleines. Et au même moment, il y a encore 2 militants de Greenpeace qui ont été condamnés à 18 mois de prison, au Japon aussi, pour avoir démontré et prouvé l'existence du marché noir de viande des baleines dans le pays. Donc malgré le fait qu'ils ont prouvé que, bon, apparemment ce qu'ils avaient fait c'était contre la loi, mais ils ont quand même prouvé quelque chose d'assez grave dans le pays, mais ils sont finis en prison, 18 mois. Et à ce moment aussi, le Japon, enfin, selon l'article, il remarque que, alors que le Japon se félicite du refus d'une interdiction de commerce du thon rouge d'Atlantique et aussi en Méditerranée, ils annoncent, curieusement, qu'il sera l'hôte en octobre du sommet sur la biodiversité à Nagoya. Et plusieurs ONG, dont Sea Shepherd, se sont plaints de cet fait et ils ont appelé au boycott du sommet. Si je ne sais pas, je vous précise, ils ont perdu un navire qui a été coulé par une baleinière nippon dans l'Antarctique, il n'y a pas très longtemps.
À ce sujet, voilà. On a fait une émission sur Sea Shepherd dans Zoom Écologie. Voilà. Vous pouvez retrouver l'émission, je crois, sur zoom-écologie.net, où vous retrouvez toutes les archives des émissions depuis quelques mois, on va dire. Voilà. Merci Rebecca. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur tes articles.
Non, mais voilà. Il y a beaucoup de nouveautés, il faut continuer à piocher dans les journaux parce qu'on trouve souvent des articles assez pertinents sur toutes ces thématiques.
Librement.
Procédurales et autres en ce qui concerne l'écologie.
Pardon. Il y a Ralette qui me montre son t-shirt tout jaune, magnifique t-shirt OGM, non merci.
L'équipe du Brésil, de football.
Je suppose qu'il y a des choses à nous dire.
Oui, c'est rapide. Hein. Moi, j'ai vu un article, je sais plus où, sur Internet quelque part, hein, peut-être par mail, en gros, qui disait que par rapport à la patate OGM qui en marche, enfin, elle marche pas encore. Hein.
Ouais, elle a
c'est
des
pas
jambes,
parce qu'elle est génétiquement modifiée que.
C'est
bravo.
OGM de compétition.
Elle a des yeux.
Incroyable. Et non, c'est juste qu'en gros, à Bruxelles, il y en a qui ont déposé un moratoire donc contre la patate OGM déjà. Nous invitons donc la France à faire de même, comme ils l'ont fait pour le maïs mont 810 dans le passé. Voilà, c'est tout.
Tout à fait. C'est qui, il y en a ? C'est d'autres pays ? Tu as une précision ? Tu te
souviens ? Non, c'est en Belgique, quoi.
En Belgique, oui.
Donc voilà, quoi.
Bruxelles, ouais. C'est en Belgique, mais sinon,
non, mais
les
pays
qui ont
belge, enfin, c'est... Ah oui,
pays
enfin,
belge. Pendant pas que c'était de débat sur la Belgique.
Pendant que c'était encore belge, du moins, je suppose. Mais en tout cas, voilà, enfin... En gros, l'Union européenne a fait passer donc le mont 810, a fait passer la patate OGM. Donc, je n'ai pas de communiqué devant moi ou truc comme ça, donc je le dis juste comme parce que j'ai le t-shirt quoi. Donc vu que je représente.
Se la pète, il a un t-shirt jaune quoi.
Voilà, j'ai un t-shirt jaune avec écrit OGM dessus.
Moi, j'ai un micro jaune et je me la pète aussi. Voilà, ça te va.
C'est magnifique.
Ouais, c'est ça. C'est une patate OGM qui permet de transmettre les sons chez vous. C'est magnifique. Alors donc du coup, on va passer. Je pense qu'on a fini avec l'apéro presse. On va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire le trou normand cycliste, non ? Ou le trou cycliste quoi ? C'est-à-dire il y a de la contestation dans les mollets. Donc on va avoir une petite chanson de Julos. Patate belge, ouais. Enfin, la patate pour faire du cyclisme.
Voilà, voilà. Donc la patate belge du cyclisme.
Non, mais faire la patate pour faire du vélo quand même, un petit peu, quoi. Pour introduire cette petite discussion, on va écouter Julos Bocarn qui va nous parler de la révolution qui commencera par le vélo.
La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette. Elle te permet d'aller 5 fois plus vite que le piéton. Tu dépenses 5 fois moins d'énergie et tu vas 5 fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo. Ce coup-ci, ça va d'aller. Elvimonde va skater.
Alors du coup, on va enchaîner. Du coup, j'ai piqué le micro à Clément. C'est l'animateur tournant, c'est la patate tournante, la patate chaude. Donc j'ai
l'animateur chaud,
tout jaune. Donc en fait, on va enchaîner donc évidemment par le cœur du sujet. Alors vous êtes tous venus à vélo ce soir, bien entendu. En tout cas, les gens qui sont à ma droite le sont venus. Il me semble avoir vu. Mais bon, désolé pour les fautes de grammaire. Bon, et ils sont là, donc on accueille Amélie.
Enchantée, bonjour.
Et Pierre.
Bonsoir.
Donc vous êtes là un peu pour nous présenter un petit événement. Alors je dois bien vous avouer, moi qui habite dans le 11e arrondissement, j'ai vu des petites affiches dans mon quartier. Des petites affiches
on
et j'ai vu.
On tracte, on pose des affiches, on va à la rencontre de tout le monde. On a fait une sortie à l'occasion de la fête de la musique et on a eu beaucoup de succès. Les gens venaient même se faire prendre en photo devant les tall bikes et les vélos à surélevés qu'on a fabriqués pour cette grande fête du début juillet, du 1er au 4 juillet à Paris.
Donc justement, là, c'est cette fête du 1er au 4 juillet. Alors sur l'affiche, je voyais une... C'est quoi on voit la tour Eiffel courir après... des gens à vélo. Voilà. Et j'ai une question à...
Non.
Avec les vélos.
Il y a des cyclistes.
En même temps, il les poursuit. Donc j'aimerais dire, ma première question, c'est pourquoi est-il si méchant?
La tour Eiffel piétine les voitures. Elle écrase les voitures comme des petites fourmis. Elle veut s'en débarrasser. Parce que les voitures n'ont rien à faire en ville. Voilà ce qu'on pense à Vélorussion.
Donc justement, Vélorussion, qu'est-ce que c'est?
Moi, pour moi, qui suis étranger, quand on parle de la Tour Eiffel, on pense à Paris, notamment.
Voilà. Bravo. Oui, bah, il n'y a peut-être pas que toi, du coup.
Merci pour la minute touristique.
Alors, c'est quoi la Vélorussion?
Donc, Pierre, Amélie, c'est quoi la Vélorussion 1er au 4 juillet, hein, c'est ce que j'ai
alors,
lu.
Alors, tout d'abord, en fait, la Vélorussion en tant que telle, c'est un mouvement associatif qui existe en France depuis une petite dizaine d'années, qui existe en Île-de-France depuis 7-8 ans et qui existe dans une vingtaine de villes françaises qui ont tous le même... tous ces mouvements ont le même objectif, c'est une ville sans voiture, avec des modes de transport doux et avec une réappropriation de l'espace public par les gens, en général, à pied, en vélo, en roller, etc. Faire vivre la ville sans la bagnole. Ça, c'est la Vélorussion. Ensuite, on organise des Vélorussions mensuelles, c'est-à-dire des masses critiques tous les premiers samedis du mois, place du Châtelet. Ça, c'est le rendez-vous mensuel sur l'île de France. Et là, parce qu'on a décidé de mettre un grand coup, on va faire la Vélorussion universelle. Donc, on invite tous les cyclistes de l'univers et de la planète entière. Mais bon, ceux qui viennent pour l'instant, dont on connaît la provenance, c'est Rome, Madrid, Manchester, Bruxelles, Berlin... les vélorussionnaires de France et de Navarre, Amsterdam. Et vraiment, nous avons beaucoup de personnes qui ont Lyon, voilà, les vélorussionnaires français, donc Lyon, Grenoble, Caen, Tours, Marseille. Je vais en oublier, bien sûr, il y en aura qui seront vexés. Donc voilà, donc ça c'est début juillet et c'est sûr que là on a fait un gros. On essaye vraiment de mobiliser toutes nos forces pour que ce soit connu sur Paris, pour que les cyclistes parisiens qui n'ont pas peut-être l'habitude de venir à des vélorussions mensuelles parce que pas le temps, pas militant, etc., voient ça comme vraiment la célébration du vélo, la célébration de ce mode de transport pratique, économique, écologique et le meilleur en Île-de-France.
C'est d'accord, alors quel jour juste... C'est le premier samedi de juillet, c'est ça?
4 jours. C'est le premier au soir.
C'est jeudi premier.
Voilà.
Okay, la plus grande masse critique aura lieu le samedi.
Ok. Alors, juste, on a Thomas au téléphone. Alors, on va en revenir tout à l'heure parce que alors, j'ai entendu un terme qui est absolument obscur pour moi. C'est j'ai entendu masse critique tout à l'heure. Alors, peut-être vous nous expliquerez exactement ce que c'est parce que la dernière fois que j'ai entendu ce terme, c'est une biologiste qui m'en parlait. Donc, il y a peut-être un lien justement par rapport à ça. J'ai eu 2-3 trucs. Mais alors là, on a Cyril, on a bien au téléphone. Je crois qu'on a Thomas, Khaled. Dis-nous qui c'est Thomas, parce que alors là c'est un petit peu lié, on va parler un petit peu d'Alter Tour, il y a probablement un lien aussi à faire avec la Vélorussion, il est au téléphone, Khaled.
Allô Thomas.
Oui,
salut, alors Thomas, donc Thomas Waring qui est des casseurs de pub, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc on t'a au téléphone aujourd'hui pour nous parler donc de à vélo contre Hulot. Vu qu'on fait une émission spéciale, il y a de la contestation dans les mollets. Alors, on souhaiterait donc que tu nous en parles pour nous dire justement ce que c'est déjà cette manifestation.
Oui, alors avec le journal La Décroissance, donc on avait lancé, ça fait déjà 2 ans, on avait lancé le pacte contre Hulot. En fait, pour dénoncer la politique de Hulot qui justement... qui amène beaucoup de confusion en fait. Voilà, c'est on a le pacte écologique laissait croire qu'on pouvait faire de l'écologie en s'alliant avec Sarkozy, en étant soutenu par des multinationales comme EDF, aussi Autoroute du Sud de la France. Sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, on peut voir que Autoroute du Sud de la France soutient le thème de la biodiversité, ce qui est quand même assez fort de café. Et donc voilà, on avait lancé ce pacte contre Hulot, parce que pour nous, Nicolas Hulot dépolitise l'écologie. Il critique certes le capitalisme, mais ça reste très très sage comme critique. Et voilà, on pense qu'il faut absolument que, enfin, on fait exprès d'insister et de vraiment de le ridiculiser. On a créé un personnage aussi qui s'appelle Nicolas Bertrand. D'ailleurs, ce sera un personnage de ce voyage à vélo. Et voilà, on pense que c'est un peu le maillon faible du système. C'est-à-dire qu'il hésite quand même. Il parle de décroissance parfois, mais c'est toujours très timide parce que forcément, il peut pas critiquer ouvertement, par exemple, le nucléaire, parce qu'il est sponsorisé par EDF. On voit qu'il hésite et on insiste beaucoup parce qu'on pense que c'est le point faible du système. Voilà.
Et donc justement, est-ce que quand on dit, c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion quand on dit donc à vélo contre Hulot, ce n'est pas donc la personne de Nicolas Hulot directement que vous attaquez, c'est vraiment cette fondation qui est, ou l'image plutôt qu'il représente plutôt, parce que c'est vrai que quand j'ai lu un peu sur internet, c'est vraiment la fondation Nicolas Hulot que vous critiquez, comme tu as dit, avec ses financeurs, notamment TF1, L'Oréal, EDF, et qui sont vraiment que des gros, donc qui sont des entreprises très polluantes, ce qui peut porter donc à confusion. Et
oui, en fait, bien sûr, c'est pas la personne, hein. On le dit sur le texte du pacte contre l'eau, c'est vraiment tout ce qu'il représente, tout le système qui est autour de lui, où en fait c'est un peu la couche de peinture verte ou la bonne conscience du capitalisme ou des grosses multinationales qui en fait se font, hein, c'est vraiment à la mode en ce moment le greenwashing où on met des petites touches vertes pour ne rien changer finalement, où on rajoute des qualificatifs à croissance, on va mettre croissance sélective, croissance propre, ou bien capitalisme moralisé, en fait on va pas du tout au fond des choses, c'est vraiment il est idéal, Nicolas Hulot, pour pouvoir éviter de remettre en question en profondeur le système de productiviste et capitaliste, voilà.
Et tu avais parlé donc de Nicolas Bertrand tout à l'heure. J'ai vu que vous partiez donc aussi de la fondation Nicolas Bertrand.
Oui.
Elle existe vraiment, cette fondation?
Voilà, c'est devenu l'emblème de notre journal La Décroissance et Casseur de Pub. C'est le local où on travaille. Il y a une sculpture en bois peinte qui représente ce personnage de Nicolas Bertrand, qui est un mélange de Nicolas Hulot et Yanatius Bertrand. Yanatius Bertrand, il est aussi, c'est un éco-tartuffe très, très critiquable, notamment avec les compensations carbone, qui permet de donner bonne conscience. C'est une opportunité très, très importante pour le système, pour pouvoir tout simplement acheter le fait de ne pas changer, quoi. Il suffit de, je pollue, il suffit de payer, comme ça je n'ai pas à remettre en question mon fonctionnement. Et ou planter des arbres dans les pays du Sud et tout ira bien. Il n'y a pas besoin de changer le modèle économique. Et voilà.
Et Nicolas Bertrand représente un peu donc cette fusion donc entre Hulot et Yanatius Bertrand. Et j'avais même vu que finalement Yanatius Bertrand, il y a aussi une pétition maintenant qui s'est montée par rapport à ces personnages, qui est quand même encore plus radicale, on pourrait dire, que la vision qu'il y a par rapport à Nicolas Hulot, non?
Des compensations carbone, c'est vraiment très très pernicieux. En plus, c'est un moyen de s'enrichir en se donnant bonne conscience. Et puis, Oui, je pense que c'est peut-être encore pire. Il y a Serge Bertrand, parce qu'il vraiment, il dit qu'il déteste la politique, qu'il ne veut pas entendre parler de politique, mais il va être avec Nicolas Sarkozy. Enfin, il va. Je pense que les compensations carbone, en fait, c'est les indulgences modernes. En fait, à l'époque du Moyen Âge, on achetait sa place au paradis. On achète sa bonne conscience en polluant, mais on paye.
D'ailleurs, du coup, ça va vraiment à l'encontre du vélo, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on peut prendre sa voiture, on se rachète une bonne conscience, et à la limite, bon, pas besoin de faire du vélo puisqu'on peut payer pour faire ça. Et justement, c'est pour ça que vous avez fait. Donc, pourquoi une manifestation à vélo déjà, puisque c'est un peu la thématique qui me concerne ce soir.
Et c'est pour s'opposer au productivisme, à la civilisation de la voiture qui est insoutenable. On arrive bientôt au maximum d'extraction du pétrole, donc on ne peut pas continuer ainsi. Il va y avoir un choc terrible si on continue à dépendre comme aujourd'hui du pétrole. Et donc il faut s'y préparer. Et le vélo est je crois que c'est le moyen de transport le plus efficace qui existe au niveau de l'énergie dépensée. Voilà, le vélo, c'est vraiment, symboliquement, c'est vraiment l'opposition à la civilisation de la voiture. Et voilà.
Et la pétition que vous avez faite, j'ai vu qu'il restait 400 dernières signatures. On est toujours à 400 ou...
Oui.
Toujours.
On espère bien atteindre les 10 000 pour notre arrivée à Paris, pour amener les signatures à la Fondation Nicolas Hulot. Et voilà, donc on encourage tous les auditeurs à signer ce pacte sur le site internet.
Et tout le monde a signé ici, non?
Alors moi j'ai pas signé, ça fait un de
plus déjà. Ouais.
Moi je peux inventer un nom, mais c'est pas sérieux.
Non, ça c'est la triche.
Non, non.
Le squatteur a-t-il signé?
Le squatteur n'a pas signé.
Oh, voilà.
Deux.
Oui, pour expliquer, en fait, on a un squatteur dans l'émission. Hein. C'est un concept. On amène un squatteur avec nous. Il a le droit de nous déstabiliser s'il le souhaite. Comme ça, l'émission est plus marrante. Et aussi par rapport à ça, donc vous partez donc le 1er juillet donc de la Fondation Nicolas Bertrand. Oui. Et une fois que vous arriverez près de chez nous, ça sera vers quand?
À midi, et ensuite on se retrouvera à la tour TF1 à 14h et ensuite à 14h30 devant le siège de la Fondation Nicolas Hulot.
D'accord, et on peut venir à vélo. Comment on peut participer à votre action?
Tout simplement en venant avec nous en vélo, et donc on va longer les quais de la Seine jusqu'à la tour TF1 et ensuite la Fondation.
D'accord. Et on peut venir même avant, de toute façon, on peut vous rejoindre à vélo sur la route. Il y a des conditions, il y a...
Alors, tout est expliqué sur le site, les itinéraires sont indiqués, donc tout le monde est bienvenu, tous les cyclistes sont bienvenus pour participer même juste un petit bout de chemin avec nous. On peut nous rejoindre à une des étapes, hein. Ce voyage se fait en 7 jours.
D'accord. Et tu peux nous rappeler donc le nom du site, juste pour... comme ça, je dirais pas d'annerie en le prononçant.
Oui, c'est le site du pacte contre l'eau.
D'accord. Donc, voilà. Le pacte contre l'eau. Donc, on tape ça sur Internet ou on regarde et on pourra le retrouver.
Et puis, je voulais juste rebondir un peu sur l'actualité.
Oui.
À France Inter, il avait fait un sketch qui démontait Hulot de manière très brillante. Et, il expliquait bien qu'on ne peut pas, en se baladant en hélicoptère, en ayant photographié Paris-Dakar, on ne peut pas ensuite dire aux gens de faire attention en se lavant les dents, de ne pas faire couler l'eau. Enfin, il avait fait un sketch très bien. J'encourage les auditeurs à le visionner sur notre site. Et Stéphane Guillon, France Inter, le directeur de France Inter avait appelé le chroniqueur, pour s'excuser au nom de France Inter de ce qu'avait fait Stéphane Guillon. Et là, Stéphane Guillon récemment s'est fait virer de France Inter. Voilà, je voulais faire le parallèle. Voilà.
Il y a même un 4x4 Peugeot Partner Ushuaïa. Et bon, je pense que tu le sais, Stéphane Guillon a été viré de toute façon donc de France Inter. Hein. Ouais, bon, je pense qu'il y a pas mal de raisons. Et donc, bah, en tout cas, merci pour l'info.
Voilà.
Et donc, du coup, bah, j'espère qu'on entendra parler de vous et que peut-être qu'on passera aussi faire un petit tour. Hein. À vélo, hein. De toute façon, on compte faire dans la semaine du 1er juillet ou 7 juillet, il y a plein de choses à vélo, donc du coup, on compte faire pas mal de balades avec les copains là-bas.
Oui, j'ai vu donc qu'il y avait plein d'initiatives à vélo, et je trouve ça très, très, très bien. Voilà.
Merci Thomas.
Et ben, avec plaisir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Donc justement, on continue. À vélo, donc on revient à Vélorussion, hein, Pierre-Amélie, pardon, mais Thomas nous appelait, donc on a un petit peu coupé, on a un petit peu transféré. Alors on continuait, j'avais une question, j'en vous ai entendu utiliser le terme masse critique. Alors j'ai vu un peu des papiers là-dessus, c'est un concept assez intéressant, ça a l'air de quand même d'être un peu le cœur du, justement des manifestations un peu massives comme ça, justement à vélo. Alors juste très vite, hein, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept?
L'effet de masse critique, c'est le quand on fait une manifestation à vélo, c'est quand le nombre de manifestants, de cyclistes devient suffisamment important pour prendre le pas, tenir tête aux automobiles. Et avec cet effet de masse, on peut circuler en toute tranquillité, on se protège les uns des autres et on a pris le pouvoir dans la rue en quelque sorte. On ne subit plus l'automobile, on ne subit plus les bouchons et on devient, on prend la rue pour nous quoi. Et je pense que cet effet de masse est atteint à partir d'une centaine de cyclistes, même des fois moins.
C'est-à-dire qu'à partir d'une centaine de cyclistes, on va dire, allez, pour faire résumer, c'est les cyclistes qui font la loi, quoi, sur le. Alors justement, l'idée, c'est peut-être pas justement de faire la loi.
Il ne s'agit pas d'enfreindre la loi, mais en tout cas de ne plus subir l'automobile comme on la subit tous les jours quand on est isolé. Et c'est ça une des idées de Vélorussion, c'est que les cyclistes cherchent à rouler ensemble. Ils aiment rouler ensemble, ils roulent mieux ensemble. Alors que l'automobiliste, lui, au contraire, il voudrait une ville vide à lui tout seul. Il ne veut pas partager, il veut rouler le plus vite possible et il ne veut pas être dérangé par les autres. Nous, on cherche la convivialité, au contraire.
D'accord, parce que j'ai vu qu'il y avait, bon, vous avez décrit un petit peu les objectifs à long terme, finalement, de la Vélorussion. J'imagine qu'il y a des objectifs à court terme. Tu me parles de convivialité, justement, sur la manifestation. Mais il y a quand même une logique aussi à long terme de savoir la place du vélo, finalement, dans la ville, quoi, dans l'urbanisme de la ville.
C'est inéluctable. Le vélo va devenir le mode de déplacement principal en ville. Le déplacement individuel. Hein. Bien sûr, il y aura toujours des transports collectifs, mais... on ne peut pas imaginer et continuer sur le modèle qu'on a actuellement. Quand on voit que tous les jours à Paris, il y a des centaines de kilomètres de bouchons, cette pollution effarante. Et Vélorussion est devenue maintenant un interlocuteur comme les autres associations cyclistes. On critique. Les actions de la politique cyclable de la ville de Paris, quand elle n'est pas bonne, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont mal faites, des voies cyclables qui ne sont pas sécurisées, il y a toujours beaucoup de problèmes dans la circulation à Paris avec les autres conducteurs, une sorte d'agressivité permanente et qui n'est pas résolue. Donc il y a énormément à faire. Et ça va prendre du temps forcément parce que on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays européens.
Alors Simon, notre squatteur avait une petite question. La question du squatteur.
Petite question. J'ai pas le droit. D'accord. J'avais une petite question à savoir justement comment le mouvement de la Vélorussion se positionnait par rapport aux initiatives un petit peu politico-économique comme le Vélib, justement. Quels étaient votre positionnement par rapport à ça?
Vélorussion est très critique par rapport au fait que le Vélib est financé d'une façon un peu obscure par un système d'échange d'espace publicitaire, etc., qui opère évidemment une ponction sur les budgets de la ville de Paris. On ne sait pas exactement combien. Enfin, il y a eu des estimations. Il y a des gens qui ont calculé qu'au final, la ville de Paris, chaque Vélib lui coûtait 1600 euros. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est exact, mais c'est affligeant parce qu'on peut évidemment acheter un vélo beaucoup moins cher que ça. Bon, après, il y a des questions de maintenance, etc. Donc, sur le principe, c'est excellent qu'il y ait eu tous ces vélos. Le vélo partagé, c'est quand même formidable. Mais sur le fonctionnement, sur le financement, on est tout à fait opposé au système qui a été mis en place.
Est-ce que vous avez des moyens de pression justement là-dessus pour rendre plus cette gestion plus publique, enfin pour essayer d'enlever ça aux marchands comme JC Deco et compagnie?
Nos seuls moyens de pression, c'est nos actions, nos manifestations qui n'ont pas beaucoup d'effet, il faut bien le dire, mais peu à peu, je pense qu'on va devenir une des voies au fur et à mesure que les politiques se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire sans une certaine écoute des associations cyclistes. On est devenu une des voies qu'ils écoutent maintenant. On a une autre action importante, c'est l'atelier associatif qu'on fait fonctionner depuis plusieurs années maintenant, qui est gratuit, qui fonctionne très très bien.
Qu'est-ce que c'est, malheureusement, cet atelier, justement, on en parler, mais qu'est-ce que c'est précisément là, cet atelier, parce que c'est une action qui me semble pas mal, quoi, vraiment intéressante.
C'est de remettre en circuit des vélos qui ont le statut d'épave, enfin des vélos très abîmés qu'on restaure, on récupère des pièces, et puis les gens peuvent aussi venir avec leur propre vélo et le réparer. On les aide, on leur apprend comment faire. C'est gratuit, c'est en ce moment rue Baudelic au ministère des sans-papiers, mais on a occupé d'autres squats auparavant et à chaque fois on a été obligé de déménager et là ça va être encore le cas. On exige avec le MDB et d'autres associations depuis un bon moment déjà que la ville de Paris nous fournisse un local, ce qui on l'espère va être le cas avec un local qui était loué par la ville, mais resté inoccupé depuis plusieurs années, boulevard Breton. Donc l'atelier va continuer de toute façon.
Parce que le lien, parce que j'ai entendu parler des gens des sans-papiers, il y a un lien du coup justement avec des associations justement sur cette thématique des sans-papiers, ou c'est le hasard qui se... Voilà. C'est quoi un petit peu
les thématiques sont bien sûr parallèles dans le vont dans le même sens étant donné que nous militons pour la liberté de circulation. Les sans-papiers, quel est leur principal problème? La liberté de circulation et d'installation. Ensuite, le fait d'installer notre atelier dans le ministère pour la régularisation de tous les sans-papiers, ça a été un hasard dans un sens, mais c'est parce qu'on a fait un parking deck qui est une de nos actions de réappropriation de l'espace public. On a fait un parking deck rue Baudelic, sachant qu'ils étaient là, on s'était dit, bon, on pourrait les soutenir, ça pourrait être sympa. C'est des convergences de causes. Voilà. Après, donc cet atelier marche tous les dimanches après-midi et le mercredi soir. On touche maintenant donc des gens qu'on n'aurait pas touché autrement. Les sans-papiers, c'est des gens qui n'auraient peut-être pas eu la connaissance d'un atelier comme le nôtre. Donc ça se passe vraiment, vraiment sympathiquement. On a toujours notre public habituel de gens qui sont au courant par Internet ou qui ont envie d'être un peu autonomes, etc. et qui viennent aussi. Et donc ça fait un bon melting pot et ça se passe pas mal.
D'accord. Donc moi qui ai un vélo qui... Je dois bien avouer, j'ai un vélo, ça fait 3 ans qu'il traîne dans une cave de mon ancienne cité universitaire.
Ouais. C'est pour ça qu'on est là.
Il a besoin d'un bon... Il a besoin d'être retapé, à mon avis, sérieusement. Ouais. Je viens de rue. Alors, rappelez-moi juste la rue.
Allez, pédale.
Rue Baudelic, 14 rue Baudelic. On est là le dimanche de 14h à 18h et le mercredi de 19h à 22h. Il faut savoir qu'il y a bien sûr menace d'expulsion et qu'il faut toujours regarder sur le site internet si vous décidez de venir dans un mois ou ce genre de choses.
D'accord, le site internet velorussion.org, d'accord. Alors, Khaled,
Juste vite fait, en fait, c'est vrai que quand on regarde l'une des villes les plus avancées, je crois, au niveau du vélo, c'est... non, pas en France, moi j'avais vu à Amsterdam, notamment, où j'ai été assez épaté, et là-bas, il n'y a pas de Vélib, hein, non ? Je n'en ai pas vu. Il n'y a pas besoin de Vélib. C'est juste pour dire comme quoi, bah, pour faire du vélo, il n'y a pas besoin d'un système de vélo, même partagé.
Les chiffres nous prouvent que, du point de vue du budget lui-même, ça revient beaucoup moins cher d'avoir un vélo à soi qu'un vélo partagé. Maintenant, il y a le problème de l'occupation de l'espace en libre.
Et le problème des stationnements. En fait, les personnes veulent un vélo partagé. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas le réparer, parce qu'elles ne peuvent pas le garer, parce qu'elles se le font voler. Point barre. S'il y avait toutes ces facilités qui étaient mises en place par la mairie, au lieu de faire 150, je ne sais pas combien d'emplacements Vélib, mais qui faisaient des places de stationnement pour vélo, qui donnaient des possibilités d'apprendre à faire du vélo en ville, parce que les gens, ils nous disent la seule chose, la première fois, tout ce qu'on nous dit, c'est oh, « c'est dangereux le vélo en ville, comment vous faites ?» Bon, mais voilà, éduquer les gens. Si tout cet argent-là avait été mis dans un programme d'éducation, vélo-école et facilité pour garer son vélo, on n'aurait pas eu besoin du Vélib, quoi.
D'où l'intérêt, finalement, de ce que vous expliquez de la masse critique, justement, ça permet d'accroître un petit peu la sécurité, justement, de la personne à vélo.
Les chiffres prouvent que plus il y a de cyclistes qui circulent, et plus ils sont en sécurité. La préfecture de police avait fait une campagne l'année dernière en disant, ou il y a 2 ans, ben justement, après la mise en service du Vélib, il y avait plus d'accidents, mais... C'était parce qu'il y avait beaucoup plus de cyclistes et en proportion, moins d'accidents. Donc à chaque fois, toutes les mesures qui peuvent permettre qu'il y ait plus de cyclistes dans les rues vont contribuer à améliorer la sécurité et aussi améliorer la santé de tout le monde. Parce que ce qu'on néglige beaucoup, on parle des accidents de la route, de la circulation, bien sûr, mais il y a aussi... la pollution automobile qui fait des milliers de morts chaque année et dont on parle peu parce que c'est des morts à petit feu ou alors des morts prématurées, entre guillemets, des gens qui ont des faiblesses respiratoires et qui sont plus sensibles aux pics de pollution. Donc il y a... le vélo, c'est la solution à tous les problèmes. Problème d'espace, problème de pollution, problème de bruit. On se déplace plus vite à vélo qu'en automobile. Moi, je suis venu ici.
Parce qu'on voit des chiffres, notamment, je sais qu'il me semble que c'est l'ADEME qui a fourni ce genre de chiffres, justement du temps passé pour faire un même trajet, notamment en milieu très urbain comme à Paris.
Ouais, les chiffres, les calculs montrent que jusqu'à 5 km, le vélo est toujours plus rapide que la voiture, qu'il y ait des bouchons ou pas. Après, quand il y a des bouchons, même sur des distances beaucoup plus longues, jusqu'à 15 km, le vélo est toujours gagnant. Et puis gagnant aussi du point de vue du budget. On a un vélo, ça coûte vraiment rien à entretenir, c'est peu cher, il n'y a pas d'assurance spécifique à prendre et c'est la solution la plus.
Et voilà, et donc il n'y a pas plus écologique. Et justement, donc, alors pour soutenir un peu cette tendance, c'est donc devenir à la Vélorussion universelle, c'est bien son titre, du 1er au 4 juillet. Vite fait, en une minute, le programme sur les 4 jours. On fait du vélo pendant 4 jours ? Ou c'est plus large.
On fait du vélo pendant 4 jours. Le premier soir, c'est la masse critique d'accueil. Jeudi 1er au soir, masse critique d'accueil. À 18h, on commence par un petit pique-nique, bien sûr. Où c'est au jardin Tino Rossi, mais il faut toujours de même regarder le site internet velorussionuniverselle.org, tout en un seul mot. Donc jeudi 1er au soir, pique-nique, puis masse critique lumineuse, ramenez vos lampions. Vendredi 2 après-midi, nous sommes à l'Esplanade des Invalides où nous avons atelier décoration, atelier réparation, atelier tout ce que vous voulez. On va faire des jeux, on va faire des joutes de tollback, on va vous montrer ce qu'on sait faire et vous allez nous montrer ce que vous savez faire. Ensuite, masse critique et ou alicate. Alicate, vous allez voir sur le site, vous saurez ce que c'est. Et film. On a une après-midi film projection au 107 rue du Chemin Vert, qui est un joli petit squat, un joli petit lieu d'occupation qu'il faut soutenir et qui est très sympathique dans le 11e. Ensuite, nous avons samedi après-midi, c'est la grosse journée, 14h, point de départ. Ouais, le rendez-vous, il est à 14h, place du Châtelet et ou place de l'Hôtel de Ville. On est en pourparlers avec la préfecture parce que celle-là, on l'a déclarée. Et il y aura un parcours très joli, très touristique et bien symbolique dans Paris, 27 km, tout tranquillo, et vous serez des milliers, et nous aussi. Ça, ce sera pour samedi. On finit au Champ de Mars. Pique-nique, musique, la fiesta. Magnifique. Dimanche après-midi, fin niente, on part en pique-nique, mais dans les bois. On part au bois de Vincennes. Et on va se retrouver donc dimanche soir en soirée de clôture au ministère de la régularisation, pour la régularisation de tous les sans-papiers, où il y aura une soirée de projection de films, théâtre et musique. Et voilà, et après on va se coucher.
Merci Amélie, merci Pierre. Donc plus d'infos, velorution.org, c'est bien ça. Donc
vous avez... Ça c'est pour Velorution et velorutionuniversel.org
D'accord.
pour les festivités et les masses critiques.
D'accord. Bon, bah, je passe la main à Clément. On a un petit jingle. Khaled, non, c'est lui qui prend la main. Maillot jaune.
Allez, on fait tourner les micros. Alors, encore, encore des mollets qui s'agitent.
Alors, rapidement, en fait, il y a aussi une autre action. Donc, on comptait les avoir au téléphone qui viennent aujourd'hui, mais ça a été impossible. Mais c'est l'Alter Tour. Donc, en gros, l'Alter Tour, c'est quoi? Donc, c'est une association qui s'appelle Alter Campagne qui a décidé de reconsidérer donc, certaines notions comme celle du dopage et de la compétition. Et l'Alter Tour, bah, c'est une sorte de contre-tour, mais en fait, ce n'est pas vraiment un contre-tour, c'est un tour de France alternatif. Et ils font donc justement un tour de France qui est contre le dopage et la compétition.
Est-ce possible ?
Eh bien, avec l'Alter Tour, oui. Donc du coup, c'est une manifestation qui a une visée d'éducation populaire, qui prennent en compte donc, le contre-pied donc, de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi des valeurs aussi de compétition et de dopage pour expérimenter la solidarité, l'échange, la rencontre et valoriser les initiatives locales des endroits où ils vont passer. Donc voilà, ça aura lieu entre juillet et août. Ça va surtout montrer donc, l'exemple...
C'est très précis.
Oui, rien. L'exemple
c'est
d'une pratique. C'est cet été, donc il y aura environ 200 participants. Il y a des personnes qui peuvent participer. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire sur Internet. Si ?
Oui, oui. Alors en fait, leur départ coïncide avec notre gros jour de grosse masse critique, qui est le 3 juillet. Et il y a plusieurs étapes en Île-de-France où il y a encore des places pour s'inscrire. Vous pouvez faire une étape ou plusieurs étapes. Une étape, c'est de 50 à 70 km. Je crois qu'ils sont à 50 km par jour maintenant. Ils ont été bien plus ambitieux dans le passé. Maintenant, ils ont décidé de ralentir les choses et tant mieux. Et c'est très familial et c'est très, très sympathique. Et ça dure un mois, ça dure le temps du enfin, ça dure un peu... Ça dure, je ne sais pas exactement, mais moins d'un mois à peu près. Et en tout cas, ils partent de Paris le 3. Ils font au moins 3 étapes en Île-de-France et ils vont dans des bois. Et ça va être joli, comme tout. Et ils sont hébergés par des agriculteurs et des choses comme ça.
Et la Velorution participe à l'organisation de cet aller-retour ou...
Non, non, on est partenaire. Ils nous soutiennent, on les soutient, on est partenaire. Voilà. Donc c'est Alter Tour. L'adresse internet, c'est...
Un bon moteur de recherche indépendant.
Voilà, Alter Tour, de toute façon, vous trouverez. C'est altertour.net. Altertour.net, voilà. En un seul mot.
Et le circuit a la forme d'un escargot, je crois, cette année.
Tout
c'est
à
ça,
fait,
c'est
tout
magnifique.
Fait. C'est
très symbolique.
Hein. C'est très, très symbolique. Ils partent en Bretagne, je crois. Enfin bref, ils vont faire quelque chose de très sympa. Et donc, c'est plus que l'antidopage. Ça vraiment, c'est intéressant parce que ça va parler du bio, ça va parler de l'OGM, ça va parler d'autres manières de vivre sur un vélo.
Justement, moi j'ai vu aussi, il y a un petit film aussi que j'ai vu lors d'un festival de cinéma à Saint-Denis où il montrait justement que pendant l'Alter Tour, par rapport à la compétition, il faisait en sorte que les plus sportifs, les plus physiques partaient toujours en dernier pour qu'à la fin tout le monde arrive ensemble. Donc il peut y avoir cet esprit pas de compétition, genre j'arrive le premier, je suis le plus fort, qui est la plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Le plus gros mollet.
Voilà, le plus gros vélo, le mollet.
Mollet.
Il y en a qui pensent ça aussi. Hein.
Justement.
Donc il y avait aussi ça et on pouvait voir aussi sur le chemin là où ils allaient. Alors il y avait des passages avec une maison en construction, une éco-construction, ils participaient à des chantiers, il y avait des conférences comme avec Christian Vélo qui a aussi participé à l'Alter Tour. Il y a plein, vraiment c'est très très riche. Non, pas lui, mais l'action est riche, mais pas en argent. Enfin bon, c'est pas grave. Donc en gros, voilà, et ça a lieu, donc le départ, donc, c'est le 2 juillet.
3.
Le 3, pardon.
Il y a une conférence le 2.
Oui,
ouais,
oui.
Il y a une conférence le 2
au soir.
Voilà, c'est ça.
À la mairie du 2e arrondissement, donc 8 rue de la Banque. Donc déjà à 19h30, il y aura une conférence de presse publique. Et à 20h30, une conférence débat avec notamment Christian Vélo et Dominique Béroul, qui sont deux chercheurs.
Christian Vélo.
Oui.
Oui. Plus. C'est son vrai nom. Bon, allez, pas de blague.
Point de départ, donc.
C'est un lanceur d'alerte, par ailleurs.
Et donc, l'arrivée sera le 13 août sur le plateau donc, des Vaches.
Bon, je crois que c'est au plateau des Mille Vaches.
Des Mille Vaches, c'est ça? Donc,
c'est dans le Limousin.
Donc, en tout cas, allez voir vite sur le site internet si ça vous intéresse.
C'est altertour.net.
Ok, bah en fait, là, on est déjà dans l'agenda, mais on va poursuivre. Donc, y a un agenda assez chargé. On a quelques infos quand même dans les jours qui viennent, fin juin, début juillet. Élise ?
Oui, est-ce qu'on fait une petite pause musicale maintenant ou
Ah
après
oui, c'est une bonne idée, effectivement. On va se détendre un peu avec de la musique. Par contre, je ne sais pas ce qu'on met.
Ouais, ouais. C'est très stressé.
On va se détendre encore plus.
Moi, je ne sais plus comment faire pour me rendre à mon bureau.
Un peu plus, hein. Comment faire pour aller au bureau
En fait, je voulais dire, on peut faire beaucoup de chemin en Vélib parce qu'il paraît qu'on en retrouve même jusqu'en Albanie.
Donc, du coup, on en arrive à où, là ?
Donc voilà, on est déjà au bureau, on n'a même pas eu le temps de prendre son vélo, c'est pas grave.
C'est l'interlude. Je savais que notre jingle, un jour, nous servirait, complètement adapté à la thématique. Un
magnifique oui. Jingle donc, du troisième
degré. Si vous nous aimez pas, cassez un vélo, vite !
Cassez un vélib, plutôt. Non, n'appelle pas ça.
Ou piquer une selle.
Achetez un vélo. Ou louez-en un, ou je sais pas quoi. Réparer un vélo. Donc on parle de l'agenda avec Élise.
Sur l'agenda. Alors tout d'abord, ce vendredi, donc aura lieu la 45e action du collectif des déboulonneurs à Paris. Donc on rappelle un collectif qui lutte de manière non violente, voilà, donc via la désobéissance civile contre le système publicitaire. Donc ce collectif, suite à un procès, avait été relaxé. Enfin, 8 militants avaient été relaxés en avril. Donc il y a eu une petite pause de 2 mois. Voilà, un petit moratoire pour laisser aux politiques le temps d'agir. Donc, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Donc, rebelote, ce vendredi, rendez-vous à 19h à la sortie du métro Gaîté, voilà, pour assister au barbouillage de panneaux publicitaires et soutenir les déboulonneurs.
Oui, donc il y a eu la loi Grenelle 2 donc en mai, comme tu l'as un peu dit. Et c'est vrai que c'est même limite encore pire que ce que ça a été avant. Pour ça, je vous invite à revoir notre émission qui était sur donc, le marathon du Grenelle des lobbies donc, du mois dernier.
On peut retrouver donc, sur zoom-ecologie.net.
Exactement.
Voilà. Donc maintenant, on continue avec le... Ouais.
C'est à Gaîté, c'est ça ?
Oui, c'est métro Gaîté.
C'est pour un barbouillage dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
Voilà. Bon, donc ensuite, il me manque une feuille, mais c'est pas grave. C'est pour parler du camp Action Climat.
Non, la loi de modernisation, tu voulais parler ? Ou on n'a pas le temps ?
Ouais, aussi. Donc en fait, en ce moment, il y a la loi de modernisation agricole qui est en examen à l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette loi de modernisation agricole ne figurent pas pour l'instant les mots agriculture biologique. Et on parle même d'agrandir les élevages de porcs, notamment. Donc, c'est ce que m'ont dit des militants que j'ai croisés aujourd'hui dans la rue. Et donc, parallèlement à l'examen de cette loi, donc, il y aura 3 jours et 2 nuits donc, de manifestations. Donc, ça sera du 29 au 1er juillet. Donc c'est la Confédération paysanne qui va s'installer à côté de l'Assemblée nationale. Donc ça se passe place Édouard Herriot à Paris. Donc 29 juin, 30 juin et 1er juillet, place Édouard Herriot à Paris. Donc voilà pour montrer à l'Assemblée nationale qu'on s'intéresse à la politique agricole. Voilà. Ouais, tu voulais nous parler d'un rassemblement aussi.
Alors, merci Simon.
Plein de choses, il va falloir choisir. Hein. Ça va être...
Alors, rapidement, donc, le 2, 3 et 4 juillet 2010 donc, a lieu donc, le 10e rassemblement à Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport, donc, au lieu dit le Limbou.
C'est à côté de Nantes, hein, juste pour préciser.
Oui, juste pour préciser, c'est pas à côté, c'est à côté de Nantes. Et il y aura donc notamment des animations, des débats. Le vendredi 2 juillet, il y aura donc un festival de musique. Donc, avec plein de groupes locaux, je pense, plutôt. Le samedi 3 juillet, il y aura des stands d'information, des conférences, des diapos à partir de 10h. Et le dimanche 4 juillet, donc, il y aura aussi le dixième pique-nique donc, des opposants à donc, ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il faut croire que ceux qui veulent mettre en place cet aéroport sont assez bêtes parce qu'ils croient qu'ils vont passer inaperçus.
Ils n'ont rien compris. Il y a eu un camp climat l'an dernier, petite transition, et qui a été assez bien suivi, n'est-ce pas ? Et donc, il y a encore une lutte locale plus active qu'avant et ils ne sont pas prêts de se laisser faire apparemment.
Oui, voilà. Il y a aussi, par rapport à cet événement à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, il y a aussi les premières rencontres de la relocalisation, donc organisées par l'association Relocalisant, qui ont lieu au même endroit. Et pour ça, je vous invite donc à aller voir sur le site internet Relocalisant, donc, comme c'est conjugué avec le nous relocalisant notamment, donc relocalisant.org.
Mais... Il y a plus grave que ça.
Il y a plus grave que ça. Il y a Total qui pollue la planète. Et donc, il y a un camp Action Climat, c'est ça, cette année, pas loin de Paris. Enfin, pas
voilà,
loin.
Donc c'est après le camp Action Climat à Notre-Dame-des-Landes. Donc, le camp Action Climat, cette année, va se dérouler au Havre. Et donc, c'est par rapport à Total, donc, qui colonise les pays du Sud, soutient financièrement la junte militaire en Birmanie, investit dans l'exploitation des sables bitumineux au Canada, ainsi que dans le nucléaire, développe l'industrie des agrocarburants, mène des campagnes publicitaires pour repeindre son blason en vert. Voilà, et donc c'est l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre en France. Donc bah, le camp Action Climat, donc Marie nous en parle souvent dans Zoom Écologie. Donc il va se dérouler donc là du 22 au 24
du 22 juillet au 1er août.
Ah oui, non, c'est vrai. Donc le 22 et 24 juillet, c'est le montage du camp. Donc là, il y a besoin de monde et de matériel.
Et d'argent.
Ah, exactement. Le nerf de la...
Banque, sort de ce corps.
Le nerf de la paix, on va dire. voilà, donc après le 24 et 1er août, bah, là, ça sera place aux actions, aux débats, aux ateliers... et à la préparation d'une action qui se déroulera le 16 octobre. Et là, ce sera pareil, une action de masse, voilà, qui sera à construire ensemble bah, lors de cette semaine de camp. Et après, il y aura également besoin de monde pour démonter. Voilà, donc tout le monde peut venir. Il y a donc le site internet campclimat.org pour retrouver toutes les informations. Là, je crois
qu'il est très probable que notre prochaine émission de la bande à Bébert va se passer en direct du camp climat, la dernière jeudi du mois prochain.
Et très sérieusement sur l'argent, si dès maintenant vous pouvez envoyer quelques euros à l'association qui prépare, enfin l'association, ouais, le collectif qui prépare ce camp Action Climat, donc un petit chèque à Mixo Matos, l'Aubergine, 89 rue Kléber, 93 100 Montreuil. Voilà, merci pour eux, campclimat.org. Et puis là, c'est fini. On vous dit salutations écologiques et solidaires, comme d'hab, dans la bande à Bébert. On vous laisse avec un petit peu de musique si on a le temps.
Ah, du coup, tu l'as fait en solo.
Ouais, bon, on l'a refait ensemble alors. Ok. Allez. Salutations écologiques et solidaires.
Et on se quitte, si c'est les possible, Apache. Avec les petites bourrettes pour me rendre à mon bureau. Au moins le début. Boum, boum.
Chez moi, elle ne consomme mais presque pas l'essence, mais presque pas, c'est déjà trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto.
Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un joli